Alors, le bilan de compétences, c'est quoi? C'est un moment faire le point sur tout votre parcours, au niveau de votre trajectoire, au niveau de tout ce que vous avez fait. Vous faites le point sur vos connaissances, la formation. On fait le point sur toutes les compétences acquises dans le cadre de vos expériences. Mais ce ne sont pas que les expériences professionnelles, c'est aussi les expériences extra-professionnelles, ce que vous faites dans le cadre du milieu associatif, ce que vous faites dans le cadre de vos loisirs. Tout ce que vous faites à côté sont aussi des expériences que quelquefois on peut tout à fait valoriser, notamment aussi pour alimenter ce qu'on appelle les traits de caractère, les fameux savoir-être. Donc, dans un bilan de compétences, c'est faire le point sur ce qu'on appelle les savoirs, l'ensemble de vos connaissances, les savoir-faire, l'ensemble de vos expériences, de vos compétences, et les savoir-être, l'ensemble de vos capacités, de vos traits de caractère et vos compétences sociales aussi. Voilà. Donc, cette dimension-là, c'est en fait, je parle souvent d'historique de carrière, donc c'est, quelque part, je donne des images, je le dis souvent, c'est faire le point sur soi, c'est ouvrir une armoire et tout vider. Une fois qu'on a tout vidé, on se rend compte de tout ce qu'on possède. Je crois que ça, vous le faites de temps en temps. On met tout sur le lit, on se dit, oh là là, c'est énorme ce que j'ai tout entassé. Donc on fait le tri, on fait le point sur les pantalons, les chaussettes, etc. On regarde tout ce qu'on possède et on prend conscience déjà des choses importantes pour nous. Donc il y a certains pantalons, il y a certaines chaussettes, il y a certains vêtements qu'on veut garder parce qu'ils sont importants à nos yeux. Et c'est s'en rendre compte, c'est partir d'abord d'un recueil de tout ce qu'on possède. Voilà, donc j'aime bien cette image-là. Donc c'est pas évident, c'est un véritable travail de faire cela. Alors, je vous dis, c'est quelque chose que vous pouvez faire de manière personnelle. Vous n'avez pas forcément besoin d'un conseiller pour le faire. C'est toujours une formule plus intéressante, quelquefois, d'avoir quelqu'un qui vous aide à le faire. Mais prendre une feuille de papier, faire le point sur la partie connaissance, la partie expérience et la partie trait de caractère, c'est quelque chose qu'on peut faire seul. Et pourquoi pas demander aussi à son environnement amical, familial et personnel, qu'est-ce qu'ils ont repéré au niveau de vos connaissances, de vos compétences, notamment dans votre vie extra-professionnelle et de vos traits de caractère, vos points forts, comment ils vous repèrent. Quelquefois, le fait de demander à l'extérieur d'avoir un autre regard au niveau de son environnement, c'est quelque chose de positif aussi.
Oui, je disais que ça allait être très, très, très subjectif. Et nous qui parlons à la personne qui fait ce bilan, et si on dit j'aime faire telle et telle activité, j'ai tel et tel trait de caractère, enfin, on peut dire ce qu'on veut en fait.
C'est subjectif. Quand vous faites la démarche de bilan et de parler de vous,
oui,
c'est
dans,
ça
dans les deux cas en fait, ça me paraît subjectif.
Alors,
que ce soit avec un conseiller ou que ce soit tout seul à la maison en se disant je suis comment, enfin comment je me définis au niveau des traits.
Alors,
de caractère.
Il est clair que toute la partie personnalité, il existe ce qu'on appelle des tests, des inventaires qui nous aident, bien évidemment, à voir comment on se situe par rapport à les fameuses courbes de Gauss, les courbes statistiques, par rapport à un étalonnage. On compare les notes brutes des notes étalonnées, on voit où on se positionne en fonction de sa classe d'âge. Donc là, on a des tests, des inventaires, ça c'est sûr pour les traits de caractère. Quand on est sur les compétences, l'idée c'est de se dire quelles sont mes preuves, qu'est-ce que je peux apporter comme preuve pour me dire que j'ai telle et telle compétence. Donc vous avez quelque chose de tout simple, qu'on appelle les fiches ROM, les référentiels opérationnels des métiers et des emplois, qu'on trouve sur le Pôle emploi, notamment. Je le note. Et ces fiches métiers vous aident à répertorier vos compétences et de faire le lien entre tiens, est-ce que ça je le possède ou pas? Donc déjà, c'est un support de travail. Après, l'idée, c'est de se dire, si je raconte mes journées de travail, mes journées de loisirs, et je détaille, j'écris tout, à la fin, je peux faire ressortir les verbes d'action qui me retranscrivent des compétences. Donc je pars de mes preuves, comment je pourrais le prouver? Et quelque part, tout ce travail que vous allez faire, ça va vous servir pour préparer votre argumentaire dans vos prochains entretiens d'embauche. Parce que quelque part, quand vous venez vers nous, un recruteur par exemple, parler de votre parcours pour prouver que vous avez des compétences pour le poste, c'est très subjectif. Je me base complètement sur votre discours. Tant que vous n'avez pas été sur le terrain, qu'il n'y a pas eu la période d'essai, j'ai aucune preuve de vos compétences. Je peux appeler à la limite quelqu'un pour savoir qui va me confirmer effectivement que ce que vous me dites, c'est bien ça, vous avez bien travaillé telle période à telle période dans telle entreprise, mais je me base sur votre discours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout est une question d'échange et de manière dont on va se valoriser pour convaincre celui qui est en face. Donc, quelque part, la démarche bilan est la même. On se base sur, effectivement, le discours, mais on a en plus des tests qu'on utilise en bilan et qu'on utilise d'ailleurs aussi en recrutement. Moi, j'ai beaucoup de tests que j'utilise dans les deux cas, dans les deux situations. Et ensuite, le bilan, je dirais, des amis, des collègues de travail, bah, quelquefois, c'est très, très pertinent, justement, parce qu'ils doivent vous prouver pourquoi ils pensent ça de vous. Donc, ils sont obligés, quand vous leur demandez un avis, qu'ils vous apportent, en fait, des preuves de ce qu'ils sont en train de dire. Quelquefois, j'ai quelqu'un qui me dit « Ah bah oui, il m'a confirmé que j'avais telle et telle qualité. » Je dis « Oui, mais comment il vous l'a prouvé? Comment il vous l'a dit ?»« Ah, mais il ne m'a pas expliqué. » Je dis « Bah, il n'y a aucun intérêt, là. » C'est sympa qu'ils vous le disent, mais comment ils vous l'expliquent? Et quelque part, vous ne serez pas convaincu vous-même tant qu'ils ne vous apportent pas la preuve. Bah parce qu'à telle période, tu as pris la parole parce que le groupe n'était pas du tout à l'écoute et tu as réussi tout de suite en 2-3 temps, en 2 mouvements, en 2 mots, à rétablir le calme. Donc ça prouve que tu es capable de faire preuve d'ascendance dans un groupe. Par exemple, là, ils vous l'ont prouvé. Vous voyez ? L'idée, c'est toujours d'amener des exemples. Et quelque part, ce travail que vous allez faire dans le cadre d'un bilan, ça vous prépare aussi à vos entretiens. Parce que le meilleur moyen de convaincre quelqu'un que vous êtes la personne qui correspond, c'est de lui apporter des preuves de vos compétences. Donc tout le travail que vous faites en bilan pour vous-même, ou avec un professionnel, hein, c'est quelque chose qui vous aide aussi pour vos entretiens. Alors, bien évidemment, on parle de l'entretien parce que tout le monde y pense, mais avant l'entretien, il y a quelque chose d'extrêmement important dans le cadre de cette démarche-là, c'est le projet professionnel. Et là, c'est ça qui me chagrine beaucoup, c'est qu'on a, de toute façon, on n'est pas du tout préparé à ça, à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire, dans quel type d'environnement de travail j'ai envie d'aller, pourquoi j'ai envie de le faire, c'est quoi mes priorités, c'est quoi mes contraintes, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, quel type de mission j'ai envie de faire, quel type de responsabilité j'ai envie d'avoir, quelles sont mes valeurs relatives au travail. Tout ce travail-là, il faut le faire en amont. Et quelquefois, on ne le fait pas. On rentre dans des études parce qu'on les aime comme ça, on y voit un intérêt sans vraiment y avoir réfléchi. Quelquefois, c'est un coup de bol, ça tombe bien. Quelquefois, ça tombe mal et donc, du coup, on se réoriente entre deux. Et après, une fois qu'on voit les postes, on se dit, bah, tiens, pourquoi pas? Mais on ne réfléchit pas en amont à qu'est-ce qu'on veut. Donc, en fait, on fait souvent, moi, c'est ce que je retrouve beaucoup avec beaucoup de personnes que j'accompagne, sur, bah, écoutez, j'ai répondu à cette offre parce que je pouvais y répondre, j'avais le profil. Oui, mais est-ce que vous en avez la motivation? Est-ce que ça correspond? Ah, bah, je sais pas. Et on se retrouve parfois avec des gens qui vont quand même à des entretiens pour juste voir. Et une fois qu'ils sont pris, ils sont très embêtés parce qu'ils n'aiment pas le métier, ou ils n'aiment pas le poste, ou ils n'aiment pas la mission. Donc quand c'est un boulot d'été, ça peut passer parce qu'on y va pour d'autres intérêts qui sont des intérêts purement pécuniaires. Mais après, y a d'autres soucis, quoi. Il y a d'autres soucis quand on est impliqué. Alors après, vous retrouvez avec des gens, mais c'est vraiment du véridique, du vécu. Vous retrouvez avec des gens qui... ont occupé un poste, ils sont en CDI, donc ils se disent, oh là là, vu le contexte, il faut quand même que je dise oui parce que c'est un CDI. Alors ils font 1 an, ils font 2 ans, ils font 3 ans, puis au bout de 4-5 ans, ils viennent nous voir et puis ils sont en limite déprime ou dépression et ils font un bilan parce qu'ils se rendent compte qu'en réalité, les intérêts professionnels qui se dégagent du bilan sont à l'opposé du métier qu'ils sont en train de faire. Voilà. Mais quelquefois, il faut du temps parce qu'on relativise, on compense dans sa vie personnelle. On essaye de développer, son goût pour les activités commerciales en allant marchander le plus possible au puce les week-ends. Enfin bref, c'est des exemples tout bêtes que je vous donne. Hein, mais où on est tout seul dans un bureau toute la journée. Donc du coup, tous les week-ends, on est sans arrêt dans des milieux associatifs. Où on s'investit dès qu'on peut dans un groupe, dans des groupes, parce qu'on a besoin d'une relation sociale dans son travail. Où on a un manque de bienveillance qu'on ne développe pas dans son travail, donc on va le faire dans son milieu associatif. Bref, on pourrait donner des tas d'exemples comme ça, où en fait, si on ne fait pas le travail en amont, on se retrouve très vite dans des métiers où on n'a pas forcément fait le choix. Alors, je ne dis pas qu'on sait tout de suite ce qu'on veut faire, mais l'idée du projet, c'est vraiment de se positionner. Alors là, ce n'est pas votre cas, parce que je suppose que si vous investissez dans une thèse, c'est que logiquement, sur la thématique dans laquelle vous êtes, peut-être pas la thématique du sujet de votre thèse, parce que quelquefois on rentre dans une thèse pour des tas de raisons, mais sur l'orientation que vous avez donnée et sur les années d'investissement quand même que vous avez données, il y a forcément un minimum d'intérêt professionnel et personnel. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, le domaine dans lequel je suis, c'est déjà bien, mais est-ce que je sais exactement quel est mon projet? Donc ça va bien au-delà, le projet. C'est aussi, quel type d'entreprise j'ai envie d'aller, est-ce que c'est le privé déjà ou pas? Si c'est le privé, quel type de poste j'ai envie d'occuper? Si c'est le public, comment j'ai envie de me positionner et dans quel choix de structure j'ai envie d'aller? Est-ce que je suis mobile? Il y a des gens qui ne se posent jamais la question. Si je suis mobile, est-ce que mon environnement familial et personnel va me suivre? Souvent, les gens disent, les conjoints, pas de soucis, puis le jour où ça arrive, c'est catastrophe. Donc c'est bien quand même de poser des choses, limite de leur faire écrire leur engagement. Hein. Parfois, quand c'est des choses très importantes où vous investissez beaucoup, je pense que c'est important quelquefois d'écrire les choses avec la personne qui est avec vous. Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser avant. Voilà. Je donne souvent l'image de la cible où on a tendance à travailler la fléchette, comment on va viser, alors qu'on ne regarde pas comment est la cible. L'idée, c'est d'abord de fixer l'objectif, de réfléchir bien à son projet professionnel pour après pouvoir travailler le comment faire. Et là, on est sur les outils de recherche d'emploi. Voilà. Donc, si je reviens au bilan, donc l'idée par rapport à cette démarche, on fait le point, on ouvre son armoire, on fait le tas. Et après, une fois qu'on a réfléchi à toutes ces priorités, ces contraintes, ces valeurs au travail, ces motivations, ces secteurs d'activité, je pourrais vous donner des tas d'exemples, vous affinez votre profil et vous allez confronter vos pistes professionnelles avec l'environnement de travail. Sans confrontation, sans rencontre avec les professionnels, vous ne pouvez pas valider de projet. Vous ne pouvez que avoir des pistes. Donc c'est ce qu'on devrait faire dès qu'on rentre à l'école, en fait. Enfin, dès qu'on rentre à l'école. Dès qu'on est au lycée, il faudrait commencer à faire ça. Donc là, évidemment, en thèse encore plus, l'idée, j'ai entendu les gens qui me disaient, le réseau, ça m'intéresse, évidemment, c'est primordial. Il faut, dès le début de la thèse, même avant, si possible, dès qu'on a des pistes, aller les confronter aux réalités du marché du travail, voir les différents professionnels, parce que ce qui est extrêmement important et ce qu'il faut se dire, c'est qu'un même métier, en fonction de là où vous l'exercez, n'a rien à voir. Je prends par exemple une infirmière qui vient voir un bilan qui ne supporte plus d'être infirmière. À la fin, elle se rend compte que ce n'est pas qu'elle ne supporte plus d'être infirmière, c'est qu'elle ne supporte plus d'être infirmière en maison de retraite. Parce que c'est à la chaîne, parce qu'elle ne suit pas vraiment les résidents, parce que l'équipe ne lui convient plus, et donc elle part en libéral. Vous voyez ? Elle est toujours infirmière, mais le fait qu'elle soit en libéral, c'est complètement différent. Les priorités qu'elle a aujourd'hui, ses choix d'environnement, de fonction, de responsabilité et de mission, sont complètement différentes. Mais elle est toujours infirmière. Et vous, c'est pareil, je donne cet exemple-là, mais je pourrais en donner plein d'autres. Vous, dans vos métiers, si vous comparez, vous échangez avec d'autres collègues, conjoints, équipes de travail qui ont fait votre parcours, il n'y en a pas un qui va vous parler de la même manière de son métier parce qu'il sera influencé par l'environnement de travail dans lequel il est. Donc, faire des choix aussi d'environnement, c'est aller rencontrer les professionnels. Alors, c'est pour ça que je passe ma vie à parler du réseau. Parce qu'avant de faire un CV, avant de se préparer à des entretiens, il faut avant tout se construire. Et plus vous construisez votre projet, plus vous savez où vous voulez aller, plus vous allez interroger les professionnels, plus vous savez pourquoi vous avez envie de faire telle ou telle chose, et plus vous arrivez à convaincre. Du coup, après, quand vous allez voir les offres, vous savez vers lesquelles vous voulez aller, vous savez vers quel type d'entreprise ou quel type de structure, quel type d'établissement, quel type de labo vous avez envie de vous investir. Et du coup, les lettres de motivation, les rencontres, elles se font toutes seules. On ne les prépare même plus, les entretiens, après, quelque part. Parce que l'argumentaire, il se déroule tout de suite. Donc, je reviens à mon armoire. Après, on se dit, voilà, ben, j'ai envie absolument d'aller au ski. Donc, je vais prendre les tenues qui correspondent au ski. Je prépare ma valise et je prépare ma destination. Donc, après, j'ai deux petites valises ou trois petites valises avec des choses spécifiques en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être que je vais valoriser en fonction des destinations. Et vous n'allez pas me parler de votre super chapeau de plage si vous allez au ski. Voyez ? Donc l'idée après, c'est de faire des sélections de ce que vous possédez pour bien vous valoriser. C'est vraiment de la gymnastique, en fait. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la démarche bilan qu'on peut faire soi-même, pas forcément avec un professionnel, c'est plus facile avec un professionnel parce qu'il vous guide, mais le travail que vous faites dans le cadre d'une démarche bilan, elle est essentielle pour travailler les projets. Voilà. Bon, après, je suis vraiment convaincue, parce que ça fait 10 ans... que je fais du bilan, et j'ai tous les niveaux, de la personne d'un niveau 6 qui sait à peine lire et écrire jusqu'à des doctorants que j'ai en bilan. J'ai une personne qui devait venir ce matin qui n'a pas pu, parce que justement on termine son bilan et elle n'arrête pas d'aller à des séminaires, et donc ce matin elle en avait un. L'idée, si vous voulez, c'est qu'après vous soyez plus disponible. C'est-à-dire que c'est un vrai travail de chercher du travail, et après le fait d'activer vos réseaux et de rencontrer des professionnels, plus vous allez poser des questions sur est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous me conseillez d'aller voir parce que je suis en train de réfléchir à mon profil, on va vous donner toujours 2-3 noms. Aucun professionnel ne vous dira j'ai pas de nom à vous donner. C'est impossible. Ils ont toujours des noms à vous conseiller une fois que vous les avez rencontrés. Donc du coup, vous y allez de la part d'eux. Du coup, vous êtes entre guillemets ce qu'on appelle pistonné, sauf que vous le méritez. Et après, vous avez un carnet d'adresses qui se remplit. Et après, bah, c'est comme ça que vous faites savoir ou vous faites connaître. Donc du coup, bah, vous avez après le choix. Mais je pense que vu l'investissement que vous faites dans le cadre d'une thèse, c'est que vous avez envie demain d'avoir le choix. Vous êtes armé normalement pour avoir le choix. Donc la thèse, il faut aussi bien évidemment la valoriser. Je ne sais pas si vous étiez là quand il y avait eu une journée d'information sur les formations proposées par la MED, mais il y avait un cabinet de recrutement sur Paris qui était spécialisé, j'ai pas pris le nom, mais je pense qu'au niveau de contact, vous allez avoir la brochure, en tout cas les coordonnées, un cabinet de recrutement qui se spécialise que dans le suivi de recrutement des gens en thèse. ou des docteurs. Parce qu'elle a compris que c'était un marché forcément florissant et pertinent. Et donc, elle travaille sur comment valoriser, elle aussi, cette thèse. Et elle était folle parce qu'elle disait, vous vous rendez compte, il y a des CV où les gens mettent leur thèse dans formation. La thèse, c'est une expérience professionnelle. Ce sont des compétences, ce sont des missions. Vous allez au travail pendant ces 3 années. Donc, ça aussi, c'est apprendre à la valoriser. Donc après, il y a, on pourra en parler, mais si vous allez sur le site de l'AMED, vous avez des tas de formations qui sont proposées sur la valorisation de soi, sur le réseau, sur la prise de parole en public, sur des tas de choses, en dehors des aspects évidemment techniques et scientifiques, pour travailler tout ça aussi en parallèle.